Session de théologie par le Père Jean-Marie Arimont sur l'Église, peuple et famille de Dieu, le 20 mars 1998, deuxième conférence.
Vu le nombre de textes de Vatican II qui ont disparu de la bibliothèque, je suis étonné de l'efficacité de ce que je vous dis. En espérant que cet acte informe la pratique. Je vais y arriver. Voilà. Alors, sur ce premier mode, ce mode pyramidal, hein, il est vraiment important d'être capable de l'intégrer dans sa vérité. Et je crois que la vérité d'intégrer un tel type de regard, c'est de savoir que le rapport au Christ, il est actuel. Autrement dit, quand je dis le Christ est fondateur de l'Église, ça ne signifie pas qu'il est d'abord fondateur d'une communauté historique qui est la communauté des premiers apôtres, mais ça signifie essentiellement qu'actuellement, il donne sa grâce, et donc actuellement il constitue par l'Esprit-Saint son corps qu'est l'Église. Vous voyez ? Et je pense que c'est la seule manière pour éviter de tomber dans le cléricalisme ou la dialectique de celui qui obéit et de celui qui commande, de concevoir la dimension, entre guillemets, pyramidale de l'Église. Vous voyez, ça j'insiste, hein, vous voyez, il n'y a pas une perte de chaleur parce qu'on est à 30 mètres de la source de chaleur. Alors, deuxième modèle, là aussi, qui réclame une petite réflexion, c'est ce que j'appellerais, tout à l'heure je me suis trompé dans l'ordre, hein, c'est ce que j'appellerais le modèle dualiste. Et vous verrez que très souvent on regarde l'Église de cette façon. Il y a toujours quelque chose de vrai, mais poussé à l'extrême. C'est un regard purement dialectique sur l'Église. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie la dualité entre le clair et le laïc. Ça, c'est la dualité fondamentale dans l'Église. Il y a celui qui célèbre, il y a celui qui assiste à la célébration. Il y a l'enseignant, il y a l'enseigné. Il y a le gouvernant, il y a le gouverné. Ça rejoint un petit peu le sens de la pyramide, mais là, c'est au niveau des relations interpersonnelles. Et puis la conclusion de tout ça, on va dire aux prêtres, l'Église et le spirituel, aux laïcs, le monde et le temporel. Aux religieux, aux religieuses, l'exclusivité des conseils évangéliques. Aux théologiens, l'exclusivité de la théologie. Alors ça, on pourrait le décliner de toutes les façons, vous voyez. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Le Saint-Père écrit à l'ensemble des catholiques du monde. 90% des catholiques vont demander à M. le curé, est-ce que vous pouvez me le lire ? Je ne comprends pas, parce que de toute façon, c'est pas compréhensible. C'est clair, je suis un idiot au point de vue spirituel. Et le prêtre ne l'est pas, c'est évident. De temps en temps, on voit le contraire, c'est ça qui est curieux. Mais vous voyez, je crois que c'est important de voir qu'on est dans une mentalité où de toute façon, on est dans cet état de dépendance. Nous, notre champ de compétence, quand on est laïque, c'est le monde. On est capable de gouverner, de faire des trucs. Mais dès qu'on est dans le domaine spirituel, j'ai toujours l'occasion de m'occuper d'un mouvement d'action catholique pour les chefs d'entreprise. Et c'est effarant comme quoi ils deviennent bêtes dès qu'ils lisent l'Évangile. alors qu'ils sont, ils sont très pertinents dans leur travail. De la même façon, vous voyez, c'est un frère très aigu au point de vue de l'intelligence métaphysique. De temps en temps, c'en est effrayant de voir combien il peut être bête dans l'ordre du jugement pratique. Et puis on s'installe là-dedans, parce que vous voyez, l'image, il faut que je sois le spéculatif, donc pour l'être, il faut que je sois bête au point de vue pratique. Et puis l'image du chrétien dans le monde, il faut que je sois bête au point de vue spirituel. Donc je ne sais pas, vous voyez, je n'ai pas de mobilité. Donc il y a la personne ressource, c'est le conférencier ou l'homme qui synthétise les valeurs spirituelles. Et puis de toute façon, moi, je ne peux rien comprendre. Vous voyez, c'est impressionnant ça. Parce que une telle conception comme ça de... Et une telle conception implique que de toute façon, je ne pourrais pas prendre la pleine stature de ma vocation. Je prends, vous voyez, principalement le rapport entre laïc et puis clair. Vous voyez, clair, hein, ça ne s'écrit pas comme le... Bon, comme ça se prononce, voilà. C'est, vous voyez, je crois que c'est important de voir que, vous voyez, très souvent, cette dimension de dualité est un frein à l'autonomie. Principalement de la vocation de laïc. Ça signifie tout simplement qu'on ne pourra pas avoir soit une responsabilité spirituelle. Vous voyez, en quoi la responsabilité spirituelle, elle est automatiquement confiée à un clerc. C'est-à-dire, je suis baptisé, ça veut dire automatiquement je suis un suiveur. Vous voyez, c'est impressionnant comme quoi c'est inscrit dans notre mentalité, ça. Alors, on est formé pour un truc, et puis, alors là, on est très compétent. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens, mais il y en a sûrement des gens avec des bardés de diplômes. Voilà, on est compétent, on a le diplôme qu'il faut, on le sort. Voilà, je suis compétent en astrophysique. Et puis, dans l'ordre de la foi, j'en suis toujours au papier collé et coloriage. Et il y a quand même un truc invraisemblable. Et une sorte de décalage, parce que on reste dans le fait, ça ne peut pas m'appartenir. Et la foi, c'est le domaine du spirituel, c'est l'exclusivité soit du moine, alors là, aura sur le moine, soit c'est l'exclusivité de la religieuse, alors là, c'est le silence béatifiant, ou sinon du prêtre. Et c'est quand même curieux, pourquoi on est dans cette situation ? Tout simplement, c'est que le rapport interpersonnel n'est plus là. Et donc, on ne se définit que par rapport à l'autre, dans sa fonction. Alors, qu'être membre du Christ, c'est d'abord se définir par rapport au Christ. Alors, il est clair, on ne va pas tous devenir des mains, parce que sinon, le corps ne serait pas harmonieux. Mais c'est le Christ qui fait l'harmonie. Et cela a fait naître, hein, vous voyez, le grand mouvement contestataire, hein, de l'indépendance du laïcat. Encore là, les pays anglo-saxons et les pays germanophones ont mis pas mal ça en lumière. Autrement dit, vous voyez, rejetons la dimension de la responsabilité ecclésiale pour que tout soit confié à tout le monde. Vous voyez, en fin de compte, du fait de la dualité, on va vouloir tout briser. Alors, la première question qu'on doit se poser au regard de ça, c'est quoi un baptisé dans l'Église, fondamentalement ? C'est un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui reçoit la vie du Christ et qui, par là même, est incorporé au Christ. Et qui va trouver le moyen de son incorporation et donc le moyen de sa vie dans le Christ par une relation de dépendance à l'égard de l'Esprit-Saint. Mais tous les moyens, ils sont divins dans cet ordre-là. Autrement dit, la notion fondamentale qu'il faut apprendre à redécouvrir, c'est la dimension baptismale. Et ça, c'est le point commun et fondamental. Et donc, revoir ce que signifie la théologie du baptême pour comprendre ce qu'est l'Église. Vous Ce qui nous permettra ensuite de définir la spécificité de chacune des vocations. La vocation à la vie religieuse, la vocation au sacerdoce, la vocation au laïcat consacré, et la vocation au laïcat engagé dans le monde. Alors, rapidement, le fondement théologique de tout ça, c'est quoi ? C'est ce que signifie la grâce baptismale. Le premier lieu où j'apprends à découvrir ce qu'est le baptême, c'est en l'exerçant. Et quand je l'exerce, vous voyez, la théologie sur le baptême nous dit que par le baptême, nous sommes rendus aptes à rendre un culte à Dieu. Ça signifie que nous sommes capables de vivre ce que Dieu vit, c'est-à-dire une vie d'amour, une vie de lumière. C'est-à-dire Dieu peut exercer sa propre existence en nous. Et c'est important ce point du baptême, parce que bien souvent, vous voyez, je vais considérer le baptême comme un chapeau de forme. Vous savez, je suis petit. Bon, c'est vrai en plus. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que par le baptême, j'ai un chapeau qui me met au ciel. Autrement dit, comme quelque chose qui est purement extrinsèque à ma nature humaine. Alors que fondamentalement, le baptême, c'est l'enracinement de la vie de Dieu en moi. Et cette vie, elle va s'épanouir en s'exerçant. Et son exercice, il a une finalité. Hein. Cette finalité, c'est tout bête, c'est ce qu'on appelle la béatitude. Mais l'exercice de la vie baptismale se situe là. Autrement dit, il y a toujours une dimension eschatologique dans le baptême. Il ne faut pas l'oublier. Mais chose importante, c'est de voir que cette béatitude, vous voyez, elle va être posée par moi dans un acte concret. Autrement dit, ça implique une coopération. Et le noyau de cette coopération, c'est ce qu'on pourrait appeler, vous voyez, la personne. Cette notion est très importante, vous voyez. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, la vie baptismale, tout compte fait, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ma personne, dans sa totalité, puisse s'acheminer vers la béatitude. Et en même temps, faire en sorte que ma personne soit signifiante de la béatitude céleste. C'est extraordinaire, ça. Autrement dit, il ne s'agit plus simplement de poser un acte particulier qui serait un acte de mes facultés supérieures par lequel, en fermant les yeux, je dirais « Mon Dieu, je t'aime », et puis après, je vis comme un païen. Mais il s'agit d'assumer pour faire en sorte que l'ensemble de ma personne, dans ses actes, puisse poser des actes qui soient signifiants de la béatitude et qui puissent conduire à la béatitude. Et il est clair qu'une personne, c'est quelque chose d'excessivement complexe. Vous voyez, la complexité d'une personne, c'est... Elle vit avec un corps, elle vit dans une communauté, elle est capable d'aimer un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, bon, tout le regard philosophique qu'on pourrait avoir sur la personne. Tout cela est concerné par le baptême. Et donc, vous comprenez bien que si le baptême, c'est cette capacité qu'il m'est donnée à exercer en moi la vie divine... Eh bien, c'est le sujet, c'est moi, donc c'est ma personne. Donc, si je ne veux pas rester dans une dualité qui est trop souvent la mienne, c'est-à-dire, je fais considérer que le baptême, ça regarde la pratique. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, hein, leur vie chrétienne, je suis pratiquant, je ne suis pas pratiquant. Vous imaginez, on définit notre baptême en fonction de la pratique ou de la non-pratique. Vous voyez, c'est terriblement restrictif comme regard. Parce que la personne n'est plus du tout au centre des choses. C'est purement périphérique. Vous voyez, la vie baptismale regarde l'ensemble de mon activité humaine. Si je comprends cela, eh ben j'ai une petite lumière sur la vocation du baptisé dans l'Église. Vous voyez, cette vocation qui est double. C'est d'atteindre sa finalité et d'être le signe de cette finalité. Autrement dit, je suis invité à vivre du salut, et en même temps, ma vie signifie le mystère du salut. C'est extraordinaire. En regardant chacun d'entre nous, on pourrait dire, c'est quand même extraordinaire, hein, Dieu nous sauve. Et c'est le sens de notre baptême aussi. Alors, je vais pas vous conduire jusqu'à l'examen de conscience, j'ai dit que c'était pas une retraite, hein, mais je voudrais quand même au moins vous mettre au seuil. Voyez, posons-nous la question. Et faites tout seul l'inventaire de ce que vous êtes. Puis n'oubliez pas l'adage bien connu d'un jésuite, hein, c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc vous voyez, vous inquiétez pas. Et je crois que c'est important, vous voyez, de voir, mais qu'est-ce que je suis ? Faites une petite liste, et puis après dites-vous, mais qu'est-ce qui est concerné par l'Évangile ? Vous verrez très peu de choses. Pourquoi ? Parce qu'on considère trop souvent que la vie chrétienne signifie pratiquer. Je suis chrétien quand je prie. Alors attendez, ne pensez pas d'une façon dogmatique en disant « Donc le père a dit, il ne faut pas prier. » Non, non, non. Vous voyez, n'allez pas à cette conclusion, s'il vous plaît. Et vous voyez, chose importante, c'est qu'est-ce qui est concerné en vérité ? Je vais prendre plusieurs lieux. Mon rapport à la communauté humaine. Ça fait partie de moi-même. Hein. Je suis inséré dans une société. Je suis inséré dans le travail. Y a-t-il un lien avec l'Évangile ? Trois quarts du temps, non. Alors si, de temps en temps, il y a un lien, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle le système du cierge. Vous savez, ça va mal, donc on va voir Sainte Rita, on met un cierge. Voilà, et puis on dit, voilà, c'est ça qui fait que, bon, concrètement, je mets Dieu dans mon travail. Vous voyez, c'est une expérience extraordinaire que j'ai faite quand j'étais au noviciat. J'étais parti avec cette phrase de Saint Paul, prier tout le temps. Alors moi je dis, bon allez hop, on y va, on essaie. Alors, et un jour je fais de l'épluchage, c'est extraordinaire. Et intérieurement je récitais mon chapelet, puis ainsi de suite. Je crois que je faisais pas vraiment attention, les plures de pommes de terre avaient triplé de volume. Et puis tout d'un coup, paf, je me coupe. Bon, je l'ai fait. Puis après je vois mon maître des novices, puis... Il me dit, qu'est-ce que tu t'es fait ? Je me suis coupé, qu'est-ce que t'as fait ? Puis je lui ai raconté mon truc, il m'a dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, de comprendre matériellement ce que signifie que la vie divine informe notre vie humaine. C'est pas uniquement par l'intentionnalité. C'est toujours dans des actes qui sont finalisés. Et donc qui réclament une dimension qualitative. Faire en sorte que la plure de pommes de terre ne soit pas plus épaisse que la pomme de terre qu'il reste après. Bon, c'est un petit exemple, mais vous voyez, je crois que c'est important de comprendre qu'il y a des quantités de lieux où on saupoudre d'une couleur évangélique notre activité, mais elle n'est pas vraiment chrétienne. Mais ça, c'est la spiritualité de la bougie. Il y a une autre spiritualité qui, à mon avis, est encore plus néfaste. C'est la spiritualité, tu me demandes, je te donne. Puis voilà, il y a une sorte de le commerce avec Dieu. Et la vie baptismale signifie, bon, Seigneur, je fais quelque chose pour toi. Voilà, puis après, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Une sorte de commerce, vous savez, avant les examens ou même dans sa vie quotidienne. À la fin de la journée, Seigneur, t'as vu, j'ai fait ça pour toi, ça. Je suis quand même content. Hein. Vous voyez, c'est une notion qui fait que la vie de Dieu, elle est en dehors de nous. La vie baptismale, qu'est-ce que c'est sinon la vie de Dieu qui s'exprime dans mon existence ? Une participation à la vie divine. Donc vous voyez, je ne suis même plus dans un rapport où Dieu est là-bas et je vais faire des choses pour lui. Mettez ça sur votre table de travail. Hein. Tout ce qu'on fait pour Dieu, ça ne sert à rien. Parce que justement, le propre de la vie baptismale, c'est l'œuvre de Dieu qui s'établit en moi. Donc je peux avoir la prétention de dire que ma personne rentre dans un processus de divinisation. C'est quand même quelque chose, ça. Souvenez-vous de cette citation de Saint-Irénée, hein, « Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu ». On le voit chez Saint-Pierre, hein, nous sommes participants de la nature divine. Vous voyez, il y a un lieu de vitalité que on doit apprendre à découvrir pour se situer véritablement dans l'Église. À partir de ce moment-là, Il est clair qu'il n'y en a pas qui ont plus et d'autres qui ont moins. En revanche, on a une diversité de vocations, une diversité d'appels. Mais ne pensons pas que parce que je suis le petit lambda baptisé et puis point la ligne, que je suis dans l'ordre de la vie divine inférieur au souverain pontife. Non, je suis désolé. Vous voyez, je crois que c'est important. C'est pas une question de plus et de moins. Après, c'est une question de vocation. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que, vous voyez, la plénitude baptismale, mais c'est la plénitude de la vie divine donnée. Et non pas de ce qu'on va faire. Vous voyez, ça cache les schémas. Puis surtout, vous voyez, c'est... Généralement, c'est ce que... Vous voyez, ça rassure les mères de famille, ça, d'apprendre à découvrir que même s'il y a une nostalgie de vie religieuse, vous voyez, la vie baptismale, elle ne se trouve pas là. Elle ne se trouve pas là. Vous voyez, après, je suis dans un appel spécifique. Et il y a un discernement propre dans cet appel spécifique. Mais oui, mais la réalisation de la vie baptismale, c'est la réalisation de la vie d'enfant de Dieu. Et ça, c'est le tronc commun. Il n'y a pas de plus et de moins. Alors, en revanche, bon, ça, je dis ça pour les frères théologiens, il est clair que j'ai une capacité plus ou moins grande à. Mais n'empêche, j'ai beau avoir un seau ou une immense citerne, de toute façon, c'est comblé. Donc, vous voyez, on n'a même pas besoin de se plaindre et de rentrer dans un processus de comparaison. Ayant compris ça, je découvre que je suis membre, parce que je vis de cette vie divine. Comment va-t-elle s'expliciter? Ça, c'est le sens de la vocation dans l'Église. Comment va-t-elle s'expliciter? D'abord, je veux dire comment elle ne va pas s'expliciter. Vous voyez, on raisonne souvent comme ça. Vous allez voir. Vous voyez, d'abord, elle ne s'explicite pas en fonction d'un projet d'ensemble. Autrement dit, je m'assois, je réfléchis, qu'est-ce qu'il faut? Bon, voilà, je vais devenir ça. Et ça s'élabore du fait d'une intimité avec celui qui façonne l'Église, c'est-à-dire l'Esprit-Saint. Ça s'élabore aussi à travers le conditionnement dans lequel je suis, ma culture. Vous voyez, c'est ce que je suis constitué comme personne, c'est ça qui va être le lieu du discernement de ma vocation, dans l'Église. Alors, ce que je me permettrai de dire en concluant sur ce modèle dualiste, hein, vous voyez, on ne peut pas avoir de dualité si on comprend ce qu'est la vie baptismale. Cette vie baptismale, c'est une communion de vie avec Dieu. Dans toutes ses conséquences, hein, pensez-le bien, vous voyez, il y a un exercice parfait de la communion avec Dieu qu'on pourrait appeler la contemplation. C'est clair, ça. Vous voyez, la vie d'oraison. Mais je suis désolé, la vie d'oraison, ce n'est pas l'ensemble de notre personne humaine. Vous voyez, donc faut-il découvrir ce que nous sommes pour comprendre la façon dont le Seigneur va l'évangéliser, va lui permettre de porter du fruit. Alors n'oubliez pas ce petit examen de conscience, hein. Dites-vous ce que vous êtes, puis regardez, c'est où l'évangile. Alors soit vous mettez un peu de poudre, pour faire en sorte qu'on a l'impression que ce soit chrétien, soit fondamentalement, on cherche le moyen pour que notre personne humaine soit véritablement rayonnante de l'Évangile. Vous voyez, c'est le cas typique. Hein. On communie à la messe et tout de suite après la messe, on se délègue dans la médisance à l'égard du prochain. C'est extraordinaire, ça. En plus, ça fait du bien. Vous n'avez pas remarqué d'être médisant, ça nous fait un bien fou. Alors, vous voyez, c'est un lieu typique, hein, en temps de carême, c'est un lieu typique à convertir. Ce que déjà fait pour la grande majorité d'entre nous. Alors, troisième aspect, l'aspect communionnel. Comme ça se prononce. La chose intéressante, c'est ce que le Concile introduit Vous voyez, le Concile Vatican II introduit la notion de peuple de Dieu. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ça naît, cette notion naît là. Hein. On la voit dans l'Ancien Testament déjà. Mais va regarder l'Église sous le mode d'une communauté humaine qu'on appelle peuple de Dieu. Cette communauté, quelle est-elle? Elle est d'abord diversifiée, elle est structurée. Elle vit selon des ministères et selon des charismes. Là, je vous renvoie à Lumen Gentium. Et on va utiliser l'Église communion. Alors là, même chose. Ne rêvons pas la communion. Le cœur de l'homme étant ce qu'il est, dès qu'il y a dans une communauté quelqu'un émerge un peu, les autres membres passent leur temps à essayer de le descendre. Ça, je crois qu'il faut être lucide, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'idéal, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je pense qu'il y a un réalisme de la communauté humaine qu'il faut pouvoir regarder de fait. Regardez les communautés humaines dans lesquelles vous êtes, ce soit le travail ou même les cercles d'amis, ou même la famille. Ouais, ça fonctionne souvent comme ça. Hein, c'est-à-dire que on veut bien la communion, mais sans que ce soit à mon détriment. Soyons lucides. Et la petite jalousie, ces choses-là. Et très souvent, on confond communion et confusion. C'est-à-dire qu'on est dans un tout confus, on pense tous la même chose, et pour penser tous la même chose, on ne pense rien. Comme ça, on est clair qu'il n'y a pas de divergence. On fait tous la même chose, et comme on ne veut pas se diverger, on ne fait rien. Et c'est l'asphyxie ecclésiale, ça. Et je vous assure, on a connu. J'ai vu ça. Alors, vous voyez, alors ça c'est extraordinaire. Là, c'est clair, on est dans l'Église communion. Il y a une telle communion que le dénominateur commun, c'est rien. Parce que là, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et on voit bien la tentation de l'unité d'une communauté. Si l'unité de la communauté se fait sous le biais du plus petit dénominateur commun, c'est foutu. Il faut que l'unité, elle se fasse par le haut, par la finalité. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. Sinon, on va créer les sous... Vous voyez, le phénomène, la vie religieuse est un laboratoire extraordinaire pour ça. C'est les phénomènes de groupe dans une communauté déjà existante. C'est extraordinaire. Voir qu'on se rassemble par le point commun. Alors, pour les uns, c'est la critique de l'un. Donc voilà, on est 10 à critiquer l'un. Puis vous voyez, voilà, c'est ça. C'est ça qui nous rassemble. Ou on voit ça aussi au point de vue politique. Vous voyez, souvent au point de vue politique, ce qui nous rassemble, c'est le fait que l'adversaire pense des choses idiotes. Donc on opte pour l'idiotie de l'adversaire. Ça, on est en plein dedans aujourd'hui. Vous voyez, il est intéressant de voir comment on peut concevoir la communion. D'abord, il ne faut pas la rêver. Je crois que c'est important. Deuxièmement, il faut la recevoir de Dieu. Et troisièmement, il faut accepter que le rapport de communion, il puisse être conflictuel. Alors là, je vous renvoie à des grands auteurs de philosophie politique, à quelqu'un comme Éric Weil, ou quelqu'un comme Machiavel, qui, dans un fond, n'avait pas complètement tort. Alors c'est toujours exagéré, c'est clair, mais vous voyez, l'homme, par nature, il implique en lui une dimension de violence, de conflictualité. Et je vous assure, c'est pas parce que nous sommes baptisés que ça n'existe plus. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire carême. C'est clair. Et cette dimension de conflictualité, il va falloir la gérer. Il va falloir la gérer. Et croire qu'on est dans une communauté dans laquelle tout va bien, c'est se leurrer. Alors en principe, le baptême adoucit les mœurs, du moins on espère. Mais ça ne règle pas fondamentalement parce que le péché originel demeure. Et du fait qu'il demeure, on est dans une situation de fragilité dans une communauté humaine. Quand on est seul, ça va, mais dès qu'on est avec une personne qu'on a choisie, ça va encore à peu près, mais dès qu'il y a un troisième qu'on n'a pas choisi, ça ne va plus du tout. Et là, me semble-t-il, on a à découvrir que si la communion, l'Église communion est donnée par Dieu, cette Église communion, elle se construit. Et souvent dans la lutte. Et chose importante, c'est quand je dis elle se construit, c'est-à-dire je la construis. Mais c'est pas quelque chose automatiquement la hiérarchie ecclésiale va construire. C'est chacun construit cette communion. Autrement dit, chacun construit son rapport à l'autre. L'autre penchant de ce terme de communion, c'est de croire que la communion lénifie les personnes. Autrement dit, les rendent, on est tous égaux. Voilà, on est tous pareils, tous égaux. Nous sommes des partenaires responsables. Et ça, c'est le jargon extraordinaire, le sens de la co-responsabilité ecclésiale, partenaires ecclésiaux responsables. Nous sommes dans une collégialité, une démarche synodale et autres. La décision est démocratique, puisque tous nous sommes égaux devant Dieu. Ça aussi, on l'entend fréquemment, et c'est souvent inscrit en nous. J'en fais immédiatement le rapport avec la condamnation de l'Église d'Éphèse. Voyez, autrement dit, de faire en sorte que le modèle de l'Église, ce soit la communion, donc on passe son temps à faire en sorte qu'il y ait une communion. Et concrètement, il n'y a plus de mission. Et c'est ce qui se passe. Et je vous assure, hein, les secteurs paroissiaux, en France, on est doué pour ça, mais d'une façon extraordinaire. On passe son temps à s'entendre, et puis voilà, quand on s'est entendu, on dit qu'on est content. On passe son temps à s'occuper des rouages du mécanisme de communion. On est complètement usé, il n'y a plus de communion, il y a plutôt d'émission. Et puis après, on se dit, bon, on a fait quoi? Rien. Vous voyez, c'est important de voir que le sens de la communion de l'Église, c'est l'harmonie du corps. Mais l'harmonie du corps, il doit être signifiant, donc il doit évangéliser. Et ça, c'est une notion aussi, à mon avis, qu'on a tendance à faire disparaître. L'Église est, dans sa nature même, évangélisatrice. Là, je vous invite à refaire la lecture, pour les frères s'ils ne l'ont pas fait récemment, ou pour ceux qui ne l'ont pas lu, du texte de Paul VI, l'exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi. Ça, c'est vraiment un passage, il y a vraiment des passages fondamentaux. Entre autres, Paul VI qui dit, la structure même de l'Église, c'est d'évangéliser. Parce que vous voyez, donc c'est pas du périphérique. Hein. Ce n'est pas de s'occuper de l'Église en tant que telle pour qu'elle fonctionne. Non, non, la constitution de l'Église, c'est l'évangélisation. Autrement dit, comme dans toute bonne entreprise, il y a un part administratif puis une part de production. Voilà. Et de temps en temps, si la part administrative dépasse tant de pourcents, c'est la ruine de l'entreprise. C'est ce qui se passe trop souvent quand on pense l'Église communion. Ah oui, et derrière ça, il y a des questions hein, qui sont importantes au point de vue pastoral. Hein, c'est la place du prêtre. Mais c'est là que ça se situe, hein, vous voyez, la place du prêtre. Si on n'est pas clair sur ce que signifie la communion de l'Église, le prêtre, on va le voir tout de suite, il ne servira à plus rien du tout. S'il sera un administrateur. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, comment se réalise la communion de l'Église? La tradition nous dit par l'Eucharistie. Autrement dit, c'est l'Eucharistie qui va constituer la communion ecclésiale. Là, je vous renvoie à la lecture de saint Thomas, hein, qui fait sien toute la tradition des différents aspects de l'Eucharistie. Mais le rôle premier et fondamental de l'Eucharistie, souvent, nous pensons quoi? je vais à la messe pour mon bien spirituel. L'ordre premier, c'est je vais à la messe, je communie, je fais oraison, je suis, voilà, c'est oh, Seigneur, je suis avec toi. C'est un aspect vrai et fondamental, mais ce n'est pas le premier. Nous dit saint Thomas, comme étonnant. Quel est le premier? C'est de constituer le corps du Christ. Autrement dit, par la communion eucharistique, l'Église se constitue. Ce qui me permet de comprendre que le rôle fondamental du prêtre, c'est l'artisan de la communion, mais non pas une communion sociale où on va tous s'entendre. Non, non. D'abord la communion, j'allais dire réelle, oui, parce qu'elle est réelle, mais de la communauté eucharistique. Et ça, c'est fondamental. Sans cette communion, il n'y a pas d'autre communion, il n'y a pas de communion humaine possible. En tout cas, qui soit signifiante pour le mystère de l'Église. Donc, vous voyez, l'ordre est très intéressant parce que, à partir du moment où je regarde l'Eucharistie comme le lieu uniquement de ma nourriture personnelle et spirituelle, que vais-je devenir dans la communauté chrétienne? Un individu. Et donc je vais me situer face à une Église qui me donne mon bien et qui me permet de rester dans ma petite individualité. Alors que la théologie de l'Eucharistie nous apprend que communier au corps du Christ, c'est être intégré au corps qu'est l'Église. Et le premier lieu de l'intégration, il est là. Et donc le premier lieu de la communion. Ce qui nécessite, vous voyez, ces deux aspects, ne le pensons pas en opposition, vous voyez. Moi, je suis que relationnel, donc le corps social, ou sinon, moi, je suis la spiritualité de l'ermite. Là, je me fais tout petit, puis je m'incline, je me fais, voilà, tout petit devant le Saint-Sacrement. Mais il n'y a pas d'opposition. Il y a un ordre. Et c'est uniquement dans la mesure où le corps est unifié par l'Eucharistie que chacun des membres peut être uni à la source. Tu sais, cet ermite, là, dont nous parlait le Père Emmanuel, qui, étant arrivé à une telle union avec Dieu, se passait des sacrements. Elle a dû entendre le Père Emmanuel ce jour-là. Et c'est vrai qu'on pourrait, on pourra arriver à ça. Alors, dernier modèle que j'ai déjà introduit, c'est la dimension individuelle, le modèle individuel. Autrement dit, l'Église est le seul service dans lequel je viens prendre mon bien pour être bien dans ma peau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des seuls services, on a des quantités. Vous avez à la mode exotique, à la mode orientale, à la... il y a de tout, il y a de tout. C'est comme la cuisine. Alors on peut... Vous voyez, c'est le sorte de syncrétisme. Alors en plus, ce qui est extraordinaire, maintenant, c'est comme pour les marchands, on va voir un petit peu dans toutes les boutiques. Donc alors on va faire... Vous voyez, pour l'un, on va prendre la technique relationnelle respiratoire et autres pour permettre d'être assis correctement et de respirer sans se bloquer la gorge. D'un autre côté, on va avoir une structure de pensée hyper solide. Vous voyez, voilà, on va aller chercher ce dont on a besoin. Là aussi, hein, je voudrais vous mettre au seuil de l'examen de conscience. On a une conversion énorme à faire dans ce domaine-là. Pour sortir du petit « moi-je » pour découvrir l'autre. Et cet autre, c'est Dieu. Et c'est... Là, je crois que c'est vraiment la lutte qui me semble la plus difficile, hein, c'est la lutte contre soi-même face à cette dimension d'individualisme. Vous voyez, si dans ma vie humaine, il n'y a que moi, Bon, c'est extraordinaire de voir les gens, et de temps en temps, on passe une heure avec quelqu'un, personne ne nous a parlé que d'elle. Mais bon, c'est sympa, mais alors après, quand c'est toutes les semaines la même chose, à la fin, on peut peut-être passer à autre chose. Vous voyez, ou si l'on est avec quelqu'un, on a l'impression qu'on n'existe pas. C'est, de temps en temps, il y a quand même, on se dit, mais c'est pas vrai. Alors, il faut lui marcher sur le pied dans ce cas-là. Vous verrez, comme ça, vous existez. Alors, problème, c'est s'il faut que je marche sur le pied du voisin pour exister, vous voyez, il y a quand même des difficultés. Ou sinon, vous voyez, on a des tempéraments, mais l'être humain, mais aucun intérêt. On a l'impression que c'est plutôt le chien, ça va. On s'amuse et on le caresse. L'être humain, alors là, aucun intérêt. Ça pose quand même des problèmes. Vous voyez, et me semble-t-il, c'est l'apprentissage de notre engagement face au Christ qui doit nous permettre de dire un jour, mais Seigneur, fais en sorte qu'il n'y ait plus que moi. Il n'y ait pas que moi. Et cet individualisme dans lequel nous sommes, ben c'est véritablement un lieu où on doit apprendre à se convertir. Et vous voyez, alors là, c'est cette si belle définition de la petite Thérèse de l'amour par le don, d'ailleurs qu'on voit chez Saint Jean. Vous voyez, la réalisation de ma personne par le don de moi-même. C'est ça le sens de la grâce. Et c'est ça l'enseignement le plus profond de la charité. J'apprends à être moi-même en me donnant, et non pas en recevant. Alors c'est vrai, si je base ma vie uniquement sur le fait de recevoir, je serai frustré toute ma vie. Parce que vous voyez, après ça grandit, hein, la soif de recevoir. Qu'est-ce que j'aime être aimé. Bon, ça marche pendant un certain temps, et puis la séduction, au bout d'un certain temps, ça marche plus. Les yeux sont moins pétillants. Le visage flétrit. Bon, vous voyez, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, je crois que c'est important de voir que très souvent, c'est l'attitude fondamentale de notre existence, ça. J'aime qu'on m'aime. Ben, il faut passer à un autre registre, c'est je me réalise en me donnant. C'est vraiment autre chose, ça. Là, je voudrais plus que vous mettre au seuil de l'examen de conscience, c'est vraiment là vous y inviter. Pour, vous voyez, c'est... pour discerner en vérité sur ça. Alors, que vais-je faire maintenant? Je vais regarder... Voilà, vous voyez, c'est... Si ce n'était pas enregistré, je ferai une remarque. Vous voyez, pour que vous puissiez un petit peu préparer, je vais... Dans un premier temps, cet après-midi, regardez comment, dans l'Écriture, nous avons différents éléments qui nous permettent de poser une théologie de l'Église. Et dans un deuxième temps, je regarderai avec vous, parce que là, on ne peut pas tout faire, comment le Concile Vatican II pose une théologie de l'Église. Alors, pour ça, vous avez les photocopies qui ont été faites. Je vous invite à les prendre et à lire les passages que j'ai sélectionnés pour vous. Ou sinon, tout simplement, vous avez le temps, pendant ces deux jours, de lire la Constitution, Lumen Gentium, c'est pas trop important comme volume. Merci.